Vous écoutez
RMC.
Vous êtes bien sur RMC. Merci d'avoir choisi Apolline Matin pour vous réveiller.
RMC, Apolline Matin.
8h01, le journal, Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Marine Le Pen à nouveau devant la justice, rejugée à partir d'aujourd'hui à Paris pour l'affaire des assistants parlementaires européens du Front National. C'est sa candidature à la présidentielle qui va se jouer durant ce nouveau mois de procès. La mobilisation agricole, 350 tracteurs sont dans Paris en ce moment et d'autres sont en train d'être délogés sur l'autoroute au sud de Toulouse. Et puis les petits patrons, vous les entendrez, ils constatent une hausse des incivilités. On a des chiffres ce matin sur RMC.
Marine Le Pen assure qu'elle est pleine d'espoir ce matin.
Oui, au matin de son deuxième procès devant la Cour d'appel de Paris qui va donc rejuger pendant un mois l'affaire dite des assistants parlementaires européens du Front National à l'époque, pour laquelle elle a été condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes et 5 ans d'inéligibilité. C'était l'année dernière, souvenez-vous, Guillaume Bier, chef du service police-justice à RMC, en direct ce matin. On se souvient du coup de tonnerre à l'époque. Comment compte-t-elle, Marine Le Pen, se défendre cette fois?
Eh bien, sur le fond, elle continue à acclamer son innocence, pleine d'espoir d'en convaincre les magistrats, a-t-elle répété hier. Et comment va-t-elle faire? En disant la vérité, insiste-t-elle. Alors, dans le détail, on sait que depuis des mois, Marine Le Pen a énormément consulté pour préparer ce procès en appel. Elle a d'ailleurs pris une avocate supplémentaire, notamment pour scinder sa défense entre d'un côté ce qu'on lui reproche en tant qu'eurodéputée et de l'autre en tant que présidente du parti, à savoir la mise en place d'un système de détournement de fonds européens. Elle s'en défend et a l'intention de contester les points de droit du dossier et les changements de règles au sein du Parlement européen. Sous-entendu, les élus FN n'avaient pas conscience de commettre une infraction. La limite de tout cela, c'est qu'il y a des indices matériels dans le dossier et que 12 autres condamnés au premier procès n'ont pas fait appel et sont donc définitivement coupables.
Guillaume Bier en direct pour RMC. La décision est attendue cet été et en toile de fond, Sébastien Krebs, chef du service politique à RMC, en direct vous aussi, c'est sa candidature à l'élection présidentielle qui se joue déjà.
Oui, c'est même la seule question qui se posera à l'issue de ce procès. Marine Le Pen pourra-t-elle être sur la ligne de départ l'année prochaine? Si les juges confirment sa peine et qu'elle reste inéligible, elle n'y sera pas. L'infime espoir de son camp, c'est que cette peine soit au moins réduite. Mais l'un de ses proches le reconnaît. Marine a conscience qu'elle joue sa survie et que le pire peut arriver. Alors elle va se montrer combative. Elle sera très présente aux audiences, mais ne lâchera pas pour autant la politique et le terrain. Elle ne va pas se mettre en apnée, prévient l'un de ses lieutenants. Elle ira soutenir ses candidats aux municipales. Elle sera d'ailleurs dès ce vendredi à Marseille. Et son entourage l'admet. Elle aborde sans doute ce procès en appel avec un peu plus de sérénité que le premier. Pourquoi? Parce que au RN, le plan B est installé. Si elle est condamnée, tout ne s'écroule pas, se rassure un proche. Ça ne serait pas la fin du monde parce qu'on a Jordan Bardella, recours assumé, qui fait désormais jeu égal avec elle dans les sondages. Si elle est condamnée, elle lui passera la main dès cet été, dès l'annonce du jugement en appel.
Sébastien Krebs, chef du service politique RMC, en direct donc ce matin. La politique, c'est aussi le budget, tiens, qui est de retour à l'Assemblée nationale aujourd'hui dans l'hémicycle, alors qu'il n'y a toujours pas d'accord entre les différents blocs politiques et que l'option d'un 49-3 est évoquée avec de plus en plus d'insistance. Le secteur de l'Assemblée, d'ailleurs, qui est bouclé ce matin à Paris, le pont et le Quai d'Orsay fermés toute la journée avec la manifestation des agriculteurs. Ils sont de retour dans la capitale pour la deuxième fois en moins d'une semaine, à l'appel cette fois de la FNSEA pour défendre la souveraineté alimentaire qui est en danger, selon le syndicat. Les 350 tracteurs qui étaient annoncés et dont on vous parle depuis très tôt ce matin sur RMC sont dans la capitale, confirme la préfecture de police. Amélie Courtet à leur côté en direct ce matin pour RMC. Question, où en est le cortège donc?
Ça y est, les premiers tracteurs sont arrivés devant l'Assemblée nationale. Objectif, interpeller les députés qu'ils jugent responsables de leur situation aujourd'hui. On est certes fatigué, mais déterminé, m'explique Damien en tête de file du convoi. Cet agriculteur est très inquiet pour les générations futures.
L'agriculture française est en train de mourir petit à petit. Vous avez qu'à regarder la courbe de décroissance du nombre d'exploitations et vous comprendrez. Nous vous en baladez depuis plus de 2 ans. Les promesses ne sont pas tenues. On attend la suppression de tout le normatif qui n'existe pas dans les autres pays du monde. Exception agricole comme l'exception culturelle. Il n'y a que ça qui sauvera l'agriculture européenne.
Et les dernières annonces du gouvernement ne changent rien. Soutien financier, renforcement des contrôles, simplification administrative. Ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut du concret, répètent les agriculteurs. Toujours dans l'attente des décrets d'application de la loi Duplomb, par exemple. Pour beaucoup, ce n'est ni la première ni la dernière fois qu'ils manifestent ces dernières semaines. Ils sont prêts à tout pour sauver leur métier. Certains ont même prévu paille, matelas, barbecue pour tenir ici plusieurs jours. Mais ils restent très escortés par la police et les camions de CRS.
Et en parallèle, les forces de l'ordre en cercle pour les déloger depuis 4h30 du matin. Les dizaines d'agriculteurs qui bloquaient depuis un mois l'autoroute A64 au sud de Toulouse. Et Jérôme Bail, lui-même, un des leaders de ce mouvement qui a composé le 32-16 ce matin pour s'en indigner.
8h06, les petits patrons sont remontés, eux aussi, ce matin.
Oui, contre les incivilités qui n'arrêtent pas d'augmenter. Ils sont 7 sur 10 à faire ce constat selon une étude du syndicat des indépendants qu'on vous révèle en exclusivité ce matin sur RMC. On parle là des insultes, des dégradations, des vols aussi. Vous confirmez à Marseille, Anna Jaugeard pour RMC.
Il y a 2 mois, André, gérante d'une boutique de prêt-à-porter, a vécu une énième tentative de vol.
La dame est rentrée avec sa fille. J'étais un peu occupée. Elle essayait d'enlever les bips sur le côté. En la surprenant, elle me dit non, mais je suis désolée. C'est la première fois que je fais ça. Que voulez-vous faire?
La gérante s'avoue impuissante malgré ses caméras de surveillance.
Et ça les dissuade pas du tout. On passe plus de temps à surveiller les gens qu'à travailler, en fait, à faire notre métier comme on l'aime.
Selon l'enquête du syndicat des indépendants, plus de 2/3 des patrons constatent une augmentation des actes d'incivilité devant la maroquinerie de Samy. Toutes les valises sont attachées avec une chaîne et un cadenas.
Il y a beaucoup de produits qui sont attachés. Bon, sans parler des antivols, de la surveillance vidéo. Il y a plein de facteurs qui font qu'il y a de plus en plus de vols et il faut être de plus en plus vigilant.
Des vols qui, pour certains, finissent par coûter cher. Jonathan est grossiste en peinture. Après son dernier cambriolage, il a dû revoir ses contrats d'assurance.
Le dernier cambriolage en date, c'était un préjudice à 12 000 euros. On était assuré avec 6 000 euros. Donc on était obligé de revoir à la hausse les contrats d'assurance. Mais qui dit augmenter les plafonds de remboursement dit augmentation forcément de la cotisation annuelle.
L'artisan déplore tout ce temps passé à prévenir les vols, du temps perdu où il ne peut pas démarcher de nouveaux clients.
Je signale que c'est le tout nouveau parquet anticriminalité organisée qui enquête sur l'assassinat de l'ancien dirigeant nationaliste corse Alain Orsoni, qui a été abattu hier alors qu'il assistait aux obsèques de sa mère dans un village au nord d'Ajaccio. C'est une journée de grève à la SNCF, trafic quasiment normal, sauf dans le RER D avec la moitié des trains supprimés, à l'appel de 2 syndicats au dernier jour des négociations annuelles sur les salaires.
8h08 sur RMC, Marseille rendra hommage ce soir à Roland Courbis.
Oui, les Marseillais porteront un brassard noir lors de leur 16e de finale de Coupe de France à 21h chez les amateurs de Bayeux. Pour saluer une des figures de son histoire. Voilà ce qu'écrit l'OM, figure même de la ville, Florent Germain à Marseille pour RMC.
Oui, les Marseillais adoraient écouter ou même croiser Roland Courbis à la sortie de ses 2 restaurants préférés, par exemple près de la plage des Catalans pour la bouillabaisse ou en bas de Notre-Dame-de-la-Garde pour la meilleure pizza du monde, disait-il. Coach ou Roland, un personnage qui a marqué les Marseillais.
C'était un pur Marseillais, quoi. Il va manquer au football français, surtout à Marseille. Moi, j'aime bien les entraîneurs comme ça. S'ils perdent, ben, ils pleurent. Quand il gagne, il pleure de joie, mais ça, c'est des super entraîneurs.
Pablo Longoria, le président de l'OM, parle d'une voix libre et habitée par la passion du jeu. Lionel Tonini, supporter emblématique des Yankees, regrette que Courbis n'ait pas été champion avec l'OM en 1999.
C'est l'entraîneur de l'OM qui aurait dû être champion, Roland, qui avait son franc-parler, qui pouvait te dire d'aller te faire voir quand tu lui cassais un peu les pieds, mais qui te répondait à n'importe quelle de la journée du soir quand tu l'as.
Bientôt, le Vélodrome rendra hommage à Roland Courbis. Les joueurs de l'OM porteront un brassard noir ce soir lors du match de Coupe de France.
Alors à propos de l'hommage, on est d'entendre les enfants de Roland Courbis sur RMC. Il y aura une messe demain 15h à Paris, à la Madeleine, et une autre samedi, Marseille, église des Réformés. Puis je vous signale que Paris s'est qualifié hier soir pour les 8e de finale de la Coupe de France, mais le PFC qui a éliminé le PSG sur le score d'un but à 0.
C'était le journal de Quentin Vinet et à 8h09, je voudrais vous dire un grand merci, un très très grand merci à vous tous qui avez fait d'RMC votre radio, parce que voilà, ce matin, les chiffres d'audience de la radio ont été publiés il y a quelques minutes pour la période novembre-décembre et ils sont très 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 bons pour nous, donc on est extrêmement heureux de vous le dire, de vous dire merci et de vous remercier. D'abord, vous êtes près de 3 millions à écouter RMC tous les jours et depuis la rentrée, en particulier pour Apolline Matin, eh bien vous êtes au rendez-vous. Alors oui, on a été là pour vous parce qu'on a encore musclé nos tranches d'informations, de débats, d'échanges avec vous. Dans Apolline Matin, vous pouvez désormais entendre chaque matin les voix de droite et de gauche. Vous avez Louis Sarkozy, vous avez Cécile Duflot. On a retrouvé le merveilleux Nicolas Canteloup tous les jours à 8h50. Et vous êtes, je le disais, au rendez-vous puisque vous êtes plus de 90 000 nouveaux éditeurs à nous avoir rejoints depuis la rentrée. Et puis c'est une fierté et un bonheur partagé également avec les grandes gueules, avec Estelle Midi, les émissions de sport également. également qui gagne de nouveaux auditeurs. Bref, on est très très heureux ce matin et on voulait vous dire encore un immense merci pour votre fidélité. Une très grande fierté pour RMC ce matin. Il est 8h10 et c'est l'heure de parler économie sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel Le Chip qui est avec nous. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Après 4 années de déconsommation, les Français recommencent à dépenser.
Exactement, le chiffre d'affaires des produits de grande consommation a augmenté en 2025 pour la première fois depuis le Covid, plus 1,9% exactement en termes de chiffre d'affaires. Mais cette augmentation du chiffre d'affaires, elle n'est pas due à la hausse des prix pour une fois, mais vraiment à l'augmentation des quantités vendues, plus 0,9%, c'est ce que nous disent les données que vient de publier le spécialiste de la consommation Circana. C'est l'alimentaire qui concentre l'essentiel de la croissance, qu'il s'agisse de l'épicerie, du frais libre-service, du frais traditionnel. À l'inverse, ce qu'on appelle le non-alimentaire continue de souffrir, notamment les rayons maison, textile, toujours orientés à la baisse. À noter que les Français sont ceux de tous les Européens qui ont le plus repris le chemin des magasins. Et alors, il y a une exception française, ceux qui ont le plus dépensé au cours de cette année 2025, eh bien, ce sont les habitants de la région PACA. Dans le sud, on a fait davantage de courses, on a consommé davantage.
Alors, en termes donc de territoire, c'est le sud. En termes de magasins, où est-ce qu'on a le plus dépensé?
Alors, il y a des perdants et des gagnants, clairement. Les perdants, c'est les grands hypermarchés. Leurs ventes ont reculé de 3%. Les supermarchés stagnent. Les grands gagnants, c'est les enseignes discount. C'est les formats plus alternatifs comme le e-commerce, notamment le e-commerce alimentaire via le drive, les magasins de proximité qui affichent des croissances de ventes supérieures à 5%. C'est une évolution qui traduit des comportements d'achat beaucoup plus stratégiques, beaucoup plus experts. Hein, depuis le Covid, on achète moins quand on fait ses courses, mais on fait ses courses plus souvent. On va dans plus d'enseignes différentes et surtout, on trouve ce que le consommateur maintenant est capable d'identifier, le juste prix. Pas forcément d'aller vers le prix le plus bas.
Le juste prix. Ouais. Et d'ailleurs, les consommateurs, ils remontent en gamme aussi. Alors.
Exactement. Les marques nationales regagnent un peu de part de marché en 2025. Là encore, après des années de forte baisse, leurs ventes progressent même un peu plus vite que les marques de distributeurs. Les marques nationales, ces grandes marques, restent majoritaires sur les sodas, la confiserie, l'hygiène beauté, les alcools. Mais clairement, quand même, le cœur du chariot de base aujourd'hui, c'est quand même les marques de distributeurs.
Merci Emmanuel Le Chypre, il est 8h13.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, Arnaud Demanche nous rejoint à 8h30. Noté, l'invité du face-à-face, ce sera le maire de Nice, Christian Estrosi. Et puis juste après, comme chaque matin, on a rendez-vous avec Nicolas Cantelou et ses imitations. Ce sera à 8h50 sur RMC. A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de Manche.
Oui, oui, il est là,
c'est
il
moi.
Est là avec
bonjour.
Nous Arnaud Demanche. Salut
bonjour
Arnaud.
Apolline, Pascal, Géraldine et Martin. Car Martin Bourdin est toujours avec nous. Jean-Jacques Bourdin l'a envoyé espionner Apolline sur Instagram.
Je veux tout savoir. Quels sont ses points faibles, ses failles? Comment elle fait d'aussi bonnes audiences? Je veux revenir.
Mais monsieur Bourdin, on a juste le même nom. Je suis pas votre fils en fait. Il faut me laisser tranquille.
Si Martin, je suis ton père.
Pour le croire,
putain d'asthme.
À propos de gens qui ont des papas embarrassants, Marine Le Pen est de retour au tribunal. Son procès est jugé en appel. Vous savez que d'ailleurs les avocats du RN ont déconseillé à Jordan Bardella de témoigner à ce procès.
Monsieur Bardella, comment expliquez-vous que l'assistant parlementaire européen de Marine Le Pen travaille à la fois à Bruxelles et à la fois au siège du RN à Paris?
Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie?
Ouais, d'accord. Le tribunal condamne Marine Le Pen. Oups, désolé.
Dans quelques semaines, on saura donc si Marine Le Pen sera présidente en 2027 ou si c'est Jordan Bardella qui se vautrera pendant le débat de l'entre-deux-tours et perdra l'élection. Non, parce que jusqu'à présent, en débat, il s'est toujours montré un peu trop fébrile.
Monsieur Bardella, votre programme économique?
Alors, l'économie, c'est important pour le pays. Ça permet d'acheter et de vendre des choses. Oui, mais encore, votre politique industrielle. Alors, l'industrie, elle a besoin d'usines avec des ouvriers pour produire des biens de consommation pour l'économie. J'ai bon ?
Oui, oui, oui. Et sur les exportations,
alors grand 3, petit B, les exportations, c'est à l'étranger, c'est quand on vend Oui. Yes. Yes. Beau gosse. Donc, si c'est lui qu'on nous promet comme président, j'ai un message pour les juges. Laissez Marine Le Pen se présenter. Eh, nous, on n'a rien fait, hein. C'est elle qui doit être punie, c'est pas nous. Je vois pas pourquoi on se taperait 5 ans de Bardella pour une vieille affaire dans laquelle on est innocent, en plus. Alors oui, c'est de l'argent public. Oh là là. Eh ben, vous savez quoi? En tant que contribuable, je pardonne. Voilà. Quitte à avoir l'extrême droite au pouvoir, j'aimerais bien avoir le moins nul des deux, si c'était possible.
En Iran, le fils du Shah, qui a donc été déchu du pays, exhorte les manifestants à, je cite, se préparer à prendre les centres-villes.
Oui, il veut revenir. D'ailleurs, les partisans du Shah pensent rappeler donc le fils du Shah pour lui redonner le pouvoir. C'est comme si à la prochaine crise en France, les royalistes mettaient Louis de Bourbon, 15 ans, à la tête du pays. Là, vous imaginez un gamin de 15 ans à l'Élysée? Déjà, premier danger, il faudrait éloigner Brigitte.
Alors, mon grand,
tu veux faire de la politique? Pour commencer par te faire un réseau, on va aller dîner chez Harry Habitant avec Gérard Miller. Et en Iran, Internet a été coupé, les portables ne passent plus, il n'y a plus que la télévision et la radio d'État, les services publics sont effondrés. Bref, courage aux Iraniens, maintenant ils savent ce que c'est que de vivre dans la Creuse. Eh ben, on pense à eux, on est solidaires.
La vidéo fait le tour du web, Arnaud. Ségolène Royal, pendant un podcast, qui lance l'idée originale au sujet des rodéos urbains.
Vous avez vu ce que c'était la vidéo, c'est génial. Elle souhaite que les auteurs de rodéos urbains intègre des écoles de cascadeurs pour le cinéma français. Parce que quand on leur confisque leur moto, c'est un peu comme quand on confisque son pinceau à Mozart ou sa guitare à Michel-Ange. C'est une vocation qu'on a.
Bien sûr.
Donc j'ai hâte d'entendre les prochaines propositions de Ségolène. Les dealers, ce ne sont que des pharmaciens contrariés, bien en sûr. Fait. Les guetteurs, ce sont des contrôleurs aériens qui s'ignorent.
Oui.
Formons-les, Michel Fourniret, si on avait développé cette passion du jardinage.
Oh non.
Véronique Courgeot, on s'est trompé, fallait lui confier la direction de Picard.
Oh,
et alors, donc, cascadeur pour le cinéma français, je savais pas qu'on avait autant besoin de cascadeurs à moto pour le cinéma français. Parce que le cinéma français, en général, c'est un couple qui s'engueule dans une cuisine. Qu'est-ce qu'on va faire de 10 000 cascadeurs à moto? Chérie, je te quitte. Comment? J'ai dit, je te quitte. Ah, Mathéo, arrête de faire de la moto dans la cuisine, on s'entend pas ici. Ça aurait de la gueule intouchable. Les deux auraient fini tétraplégiques, ils auraient été en fauteuil tous les deux. Ils vont en foutre partout des cascadeurs. Messire! Messire! Un sarrasin à moto! Un sarrasin à moto, messire!
Bonbon Jacouille, monte séance sur ma moto.
Coupé! Il y a une moto dans le champ! Oui, c'est à cause de Ségolène Royal. Si on n'en met pas, on n'a pas le CNC. Tu sais qu'il est géré par Patrick Balkany maintenant, le CNC. C'est une idée de Ségo. Voilà, le monde va changer. À demain.
Le cinéma sponsorisé. Merci Arnaud Demanche. Arnaud, qu'on retrouve tous les matins à 7h20 et à 8h20 pour notre plus grand plaisir. Vous êtes très, très, très nombreux et on aimerait vous faire passer tous à l'antenne. Mais quelques-uns, évidemment, on peut y arriver pour partager votre émotion après la mort de Roland Courbis. Amir est avec nous, qui nous appelle des Hauts-de-Seine. Bonjour Amir.
Bonjour Apolline.
Amir, vous aussi, vous êtes ému, vous vouliez rendre hommage à Roland Courbis.
Un grand monsieur du football français, un grand monsieur tout court. Il m'a appris beaucoup, je l'écoute depuis des années sur votre radio. Ça m'a énormément touché hier quand j'ai appris sa mort en direct sur votre radio. Vraiment touché.
Très, très, très touché. Vous avez entendu ses enfants tout à l'heure. On sentait vraiment une famille, la vraie famille. Et puis la famille d'RMC, la famille du foot. On a l'impression tous d'avoir fait partie justement de cette famille. Et il y a de nombreux messages aussi sur le WhatsApp. J'aurais qu'on puisse en citer quelques-uns quand même pour pouvoir justement dire ce que vous nous en dites.
Le plus fort, c'est lui de Loustalo. Je suis tellement triste de cette perte. Roland, c'était un peu comme mon tonton. Je l'ai suivi à Marseille et partout. J'adorais son franc-parler, ses débats enflammés. Un grand bonhomme est parti. Condoléances évidemment à toute la famille.
Merci à vous tous pour vos messages. On continue bien sûr sur l'antenne d'RMC et très belle journée à vous, Amir. Dans un instant, mon invité, c'est le maire de Nice, Christian Estrosi. Ça se passe sur RMC et BFM TV. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h28 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Christian Estrosi.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions dans ce studio. Vous êtes le maire de Nice et vous êtes d'ailleurs candidat à votre propre succession. Vous êtes également le vice-président du parti Horizon. Un mot d'abord sur ce qu'il se passe en ce moment même. La colère des agriculteurs qui ne faiblit pas. Ils sont entrés avec des tracteurs dans Paris. On voit sur les images de BFM TV qu'un certain nombre de tracteurs de la FNSEA sont présents devant l'Assemblée nationale. Dans le même temps, du côté de l'A64, c'est le barrage installé depuis un mois par les agriculteurs, notamment de Jérôme Bail, qui est en train d'être délogé par les CRS. Est-ce qu'il faut en effet mettre fin à la colère des agriculteurs ou est-ce que vous estimez qu'il faut qu'ils puissent continuer à s'exprimer ?
Bon, s'exprimer est une chose, bloquer en est une autre. Parce que, naturellement, je partage et je soutiens la colère des agriculteurs, mais je ne peux pas soutenir un mouvement qui en même temps met en difficulté d'autres pans de notre économie. Voilà, le droit de grève, le droit de manifester est quelque chose de libre et de constitutionnel dans notre pays. Celui de mettre en difficulté à un moment où nous avons besoin de produire, où nous avons besoin d'avoir une économie qui soit dynamique et qui relance la croissance dans notre pays, alors qu'on voit les difficultés, notamment dans le débat budgétaire à l'Assemblée nationale. Voilà, je veux dire à nos agriculteurs que je suis
quand
naturellement...
Quand vous dites
que
je les comprends, vous comprenez quelle partie de leur colère ? Est-ce que vous comprenez leur colère contre le Mercosur ? Est-ce que vous comprenez leur colère contre une sorte de trop de normes ? Est-ce que vous comprenez leur colère sur une concurrence déloyale avec nos propres voisins, y compris au sein de l'Union européenne ? Quelle est la part ? Est-ce que vous comprenez ces trois aspects-là ? Ou est-ce qu'il y a parmi ces différentes colères, certaines qui ont plus de grâce à vos yeux ?
Non seulement je comprends, mais en plus je dénonce avec eux, et ça remonte à des décennies. Alors on peut prendre le Mercosur qui est l'actualité. Sur le Mercosur, naturellement, il est incompréhensible de voir le Parlement européen qui s'apprête à voter quelque chose pour lequel la France, pourtant, avait réussi à obtenir qu'il y ait une minorité de blocage.
Ça n'a pas duré longtemps, ça. Il y a eu quelques jours où on a réussi à embarquer avec nous les Italiens.
Ça a sauté, comme vous le dites, à cause des Italiens. Ça a sauté à cause de Meloni. Ça a sauté à cause des alliés du RN. Là où nous avions une minorité de blocage qui pouvait reporter ce débat à plus tard. Aujourd'hui, rien que sur la viande et la volaille, on sait qu'on produit en Amérique du Sud à 20 ou 30% moins cher, donc on est face à une concurrence déloyale.
Quand vous
parlez de concurrence déloyale.
Allez-y. Mais j'ai bien noté que vous pointiez les alliés du RN. J'y reviendrai. Allez-y, Christian Estrosi.
Lorsque vous parlez de concurrence déloyale, vous parlez de concurrence déloyale en Europe déjà. Moi, je vais plus loin que la concurrence déloyale. Ça fait des décennies que la France a cédé des pans entiers à des normes européennes qui nous ont été imposées, y compris alors que nous étions le grenier de l'Europe et que nous pouvions, par notre propre souveraineté, que ce soit pour nous-mêmes ou que ce soit pour la richesse de production de la France, apporter des parts de marché importantes à notre pays
C'est un problème français ou c'est un problème européen, Christian Estrosi ?
Moi, je pense que alors c'est un problème d'une Europe qui ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner c'est un problème de la France qui n'a pas su faire entendre sa voix en Europe pour ne pas céder à l'Europe un certain nombre de parts de marché.
Vous parlez de la question de la souveraineté, c'est le point sur lequel la FNSEA veut alerter ce matin avec ses tracteurs dans Paris. Ils disent la production française est en retrait et donc en termes de souveraineté alimentaire, on n'est plus au rendez-vous.
Moi, je donnerai toujours priorité à la souveraineté française, que ce soit dans le domaine alimentaire, que ce soit dans le domaine agricole, que ce soit dans le domaine industriel, où sur tous ces sujets, nous avons beaucoup, beaucoup trop cédé. Aujourd'hui, nous avons des ressources. Redonnons ces ressources, rentrons dans un rapport de force, y compris si c'est nécessaire avec nos partenaires européens, pour pouvoir regagner des parts de marché, redonner du pouvoir d'achat.
Il faut jouer faisons le bras de fer, travailler. Il faut jouer le bras de fer, avec les Italiens, par exemple.
Mais faisons, mais bien évidemment, faisons travailler les agriculteurs français. Vous savez, certes, je ne suis pas un grand territoire agricole, agricole, mais la métropole dont je suis le président aujourd'hui a fait des choix. J'ai retiré, par exemple, lorsque j'ai été élu, la gestion privée des 149 cantines scolaires de ma ville. 28 000 repas par jour servis pour que je devienne
donc
moi-même
vous avez récupéré
le chef cuistot, ouais. Qui passe par ses circuits courts et fasse travailler directement ses producteurs et ses agriculteurs.
Dans les cantines de Nice, aujourd'hui, on sert des produits français ?
On ne sert que des produits locaux, que des produits régionaux. Parce que j'ai voulu
donc
passer
vous y arrivez.
Par des circuits courts, c'est moi qui passe la commande, c'est mon administration dans les règles des marchés publics.
Vous n'avez plus de délégation, vous n'avez plus de délégation de la cantine ?
Ah non, surtout pas. Voilà, je veux assurer moi-même le service public. La première fois que j'ai visité une école, lorsque j'ai été élu il y a trois mandats de cela, je suis rentré dans une cour d'école et j'ai un petit garçon qui m'a tiré par la manche et qui m'a dit « Monsieur le maire, pourquoi c'est pas bon ce que tu me sers à manger à midi ?» Pardon, ça fait sourire.
Oui, oui. Donc depuis, vous êtes devenu chef cuistot, comme vous dites.
Je suis rentré tout de suite au bureau et j'ai dit « Maintenant, ça suffit. Ça fait 30 ans qu'on confie à telle ou telle grande entreprise de France de se substituer à ce qui est le rôle du maire, de service, du bon, de la production locale, du savoir-faire local. Et maintenant, eh bien, je nourris et j'ai relancé le maraîchage. J'ai modifié mes plans locaux d'urbanisme pour qu'on reconquiert des terres agricoles dans la périurbanité de la ville de Nice.
Christian Estrosi, je l'ai bien entendu. Vous avez immédiatement pointé du doigt la responsabilité ou en tout cas la duplicité d'Italie qui, après nous avoir laissé entendre qu'elle nous soutiendrait dans le refus du Mercosur, a fini par nous lâcher. Et vous dites les alliés du RN. Ça veut dire que vous considérez que le RN, qui officiellement en tout cas soutient la colère des agriculteurs, en réalité n'est pas de son camp ?
Écoutez, moi je ne veux pas regarder un débat idéologique stérile, stupide. Je dis simplement qu'ils sont officiellement les alliés de Madame Meloni, qu'ils arrivent à convaincre Madame Meloni et qu'avec elle, ils votent au Parlement européen, puisque ce sont eux qui ont bel et bien gagné les élections européennes en France. On est d'accord.
Ils sont arrivés largement premiers.
Bon, ils sont arrivés largement premiers, qu'ils pèsent avec tous ceux des parlementaires que je soutiens aussi avec la droite et le centre au Parlement européen pour que nous n'arrivions pas à cette signature qui aurait des conséquences énormes auprès de nos agriculteurs.
Vote le 20 janvier au Parlement européen. Christian Estrosi, le procès en appel de Marine Le Pen s'ouvre aujourd'hui. Jordan Bardella, hier, a déclaré empêcher Marine Le Pen d'être candidate en 2027 serait profondément inquiétant pour la démocratie. Est-ce que vous estimez que les juges doivent prendre en compte cette question-là ?
Non, les juges doivent faire leur travail. La justice doit suivre son cours, c'est clair. Et donc Marine Le Pen n'a pas à être traitée comme n'importe lequel d'entre nous par rapport à l'ensemble de nos concitoyens avec plus ou moins de mansuétude. Aujourd'hui, il y a une disposition qui est profondément inadaptée et injuste, c'est cette inéligibilité automatique. Donc, au-delà du jugement qui doit suivre son cours naturellement, moi, je suis extrêmement favorable à ce que le Parlement décide de réformer cet aspect de notre code pénal et de notre code de procédure pénale.
L'inéligibilité avec une application immédiate.
Qui s'appuie sur l'immédiateté de l'inéligibilité qui me semble totalement contre-productive en matière de démocratie, en matière d'expression de nos concitoyens.
Supprimer cette exécution provisoire, comme on dit.
Il faut la supprimer car les magistrats eux-mêmes doivent le comprendre et je pense qu'ils sont pour beaucoup d'entre eux gênés par cette disposition. Naturellement, ils sont légitimes à dire, écoutez, c'est le Parlement qui en a décidé ainsi. Nous, on ne fait qu'appliquer les dispositions du Parlement. C'est complètement stupide qu'un jour le Parlement ait décidé de mettre en place cette mesure. Eh bien, que le Parlement revienne en arrière aujourd'hui.
Mais de manière, j'allais dire presque urgente, pour que ça puisse s'appliquer à Marine Le Pen ? Est-ce que vous invitez les juges aujourd'hui, dans la mesure où cet état d'esprit est le vôtre, à ne pas appliquer cette exécution provisoire ?
Ne me demandez pas de me prononcer par rapport à telle ou telle personne. Elle s'est appliquée pour d'autres personnes. Je pense à mon ami Hubert Falco, avec toutes les conséquences que ça peut avoir en matière électorale dans ma région, sur la grande ville de Toulon. Ça s'est appliqué de manière injuste et en même temps évidemment, ça a privé les Toulonnais de quelqu'un qui a servi sa commune avec tant de dévouement pendant des années, plutôt que de laisser simplement le cours de la justice sanctionner s'il y avait des sanctions à prendre, sans pour autant priver d'éligibilité. Donc, ne me parlez pas de Le Pen en particulier. Moi, je vous parle de cette mesure.
Oui, enfin, vous me parlez quand même en particulier de Monsieur Falco, mais vous voulez pas me parler en particulier mais de Madame Le Pen.
Je vous parle de Falco, je vous parle de Madame Le Pen. Je pourrais vous parler parce que je crois qu'il y a de nombreux élus, y compris d'élus de petits villages, de petites communes dans notre pays, qui ont moins de notoriété et qui sont confrontés à la même situation.
Mais est-ce que, au-delà de la question du jugement, si Marine Le Pen, d'une manière ou d'une autre, était empêchée de se présenter à l'élection de 2027, vous considérez que ce serait et là encore, je reprends l'expression de Jordan Bardella, inquiétant pour la démocratie.
Ce serait l'application de la loi voulue, telle que voulue par le Parlement. Je ne vais pas reprocher aux magistrats d'appliquer les lois qui sont votées par le Parlement.
Je ne sais pas si vous l'avez vu, la une du journal Le Monde hier et sa grande enquête sur les idées du Rassemblement National. Et pour la première fois, les idées du Rassemblement National, là je ne parle pas d'intention de vote pour Marine Le Pen ou pour Jordan Bardella, mais du cœur de leurs idées défendues par le RN, sont disent-ils très importantes dans le pays. 42% des Français qui se disent en accord avec les idées du RN. Comment vous réagissez à ça ?
Bah, écoutez, parmi les idées du RN, il y a des idées qui sont les nôtres. Vous parlez d'idées. Moi, je parle de réformes, je parle de projets.
C'était les vôtres avant ou c'est les vôtres après ?
Mais... citez-moi une idée.
Ah bah, je vais vous le dire, puisque j'ai toute la liste sous les yeux. La justice n'est pas assez sévère avec les petits délinquants. 80% des Français sont d'accord avec ça, vous aussi.
Et moi aussi.
Suspension des allocations familiales pour les parents de mineurs criminels ou délinquants récidivistes, c'est une des mesures proposées par le RN. 73% des Français sont d'accord, vous aussi.
Alors, attendez, c'est pas moi aussi, moi je l'applique.
Vous l'appliquez dans la ville de Nice.
Moi je l'applique à Nice, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand dans une famille de dealers, vous avez un dealer dans un des logements sociaux de la ville, j'ai une convention avec la caisse d'allocation familiale qui fait qu'on expulse la famille.
Interdiction.
Donc, vous voyez, j'ai pas de souci avec ça.
Vous n'avez pas attendu le RN pour ça.
Ce ne sont pas leurs idées, ce sont nos idées qui sont reprises par d'autres. La différence, c'est que nous, on n'est pas dans le commentaire, on est dans l'action.
C'est la seule différence désormais avec le RN.
Nous, on est dans l'action.
Mais vous partagez le même corpus d'idées.
Un maire, aujourd'hui, est dans l'action.
Mais vous partagez le même corpus d'idées.
Au Parlement, c'est du commentaire. C'est du commentaire à Bruxelles, c'est du commentaire à Paris. Mais quand on est à la tête d'une ville et qu'on mène une action et qu'elle se traduit par des faits concrets, on montre que nous, on agit. Donc, voilà, moi,
On va continuer. Interdiction du port du voile islamique dans l'espace public. 66% des Français sont d'accord avec cette idée. Et vous ?
Mais j'ai pris des dispositions à cet égard, notamment à l'égard du burkini, et je vous rappelle que j'ai été condamné par le tribunal administratif dans ma ville pour avoir pris ce type de disposition.
Restriction du regroupement familial, instauration de la présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, plus de pouvoir à la police, retour à 62 ans pour l'âge légal de départ à la retraite, c'est peut-être là-dessus que vous n'êtes pas d'accord par contre.
C'est un désaccord total, mais pardon pour la police, ça fait longtemps que ces propositions, ce sont celles qu'ils reprennent, alors qu'avec un grand nombre de mes amis qui sommes parmi celles et ceux qui disent dès qu'il y a un Français qui aujourd'hui s'attaque à un policier, il doit être sanctionné avec la plus grande des fermetés. Donc aujourd'hui, ne soyons pas sur le thème des idées.
Oui, mais reconnaissez-le, ça veut dire que sur le thème des idées, au fond, aujourd'hui, il n'y a pas de différence, hormis sur le plan économique.
Mais vous savez, moi je suis ferme de la main droite. Hein, j'ai été traité de Big Brother pour avoir mis 6000 caméras intelligentes de vidéosurveillance dans ma ville. J'ai été traité presque de fasciste.
Mais si vous êtes d'accord sur les idées,
je crois même que c'était sur votre plateau, la cinquième colonne qui est en train de faire son chemin dans notre pays. Lorsque je vois aujourd'hui toutes ces dans la main gauche, j'ai une main gauche qui est ouverte sur la dimension sociale, sur la dimension qui touche à la transition écologique.
Mais je vous pose la question. Vous êtes contre l'alliance des droites.
Vous parlez
votre adversaire.
Il y a pas
votre adversaire.
Ça n'existe pas.
Éric Ciotti.
C'est du pipeau, l'alliance des droites. C'est du pipeau. Pardon, mais moi je suis pour l'alliance de la droite et du centre. D'accord. Les droites, je ne sais pas ce que ça veut dire, surtout quand on parle de du retour à la retraite à 60
l'alliance
ans,
de la droite
c'est plutôt
et du centre.
Une mesure mélenchoniste qu'une mesure de quelqu'un qui peut se revendiquer d'être un parti de droite.
Christian Estrosi, l'alliance de la droite et du centre, c'est ce qui devait conduire à un budget, ça patine. Vraisemblablement, le 49-3 devra être utilisé assez vite pour obtenir un budget. Est-ce que vous estimez vraiment que c'est très fructueux, cette alliance de la droite et du centre ?
Aujourd'hui, le pays et les Français sont fatigués. Fatigués que depuis 2 mois maintenant, 3 mois, on soit dans un débat budgétaire où on ne parle pas de vraies réformes. Tenez, moi j'attends avec impatience que soit déposée au Parlement enfin la réforme sur les polices municipales pour qu'on nous donne, à nous les maires, les mêmes responsabilités, les mêmes compétences que celles dont dispose la police nationale, avec laquelle d'ailleurs nous travaillons dans d'excellentes conditions, puisque je suis en train de faire le plus grand hôtel de police mutualisé des polices nationales et polices municipales. Mais qu'on en vienne à des choses concrètes, enfin. Donc, on sait très bien qu'on sortira ni un bon, ni un extrêmement mauvais budget. Donc, à un moment,
donc,
le gouvernement...
Donc, passons à autre chose, utilisons le 49.3
et... Le gouvernement prenne ses responsabilités. Moi, j'ai voté mon budget, qui est un bon budget au niveau de la ville, de ma métropole, qui permet à mes acteurs économiques, à mes associations, de remplir leur carnet de commandes et dynamique économique. Donc, que le gouvernement, plutôt que de faire cette espèce de chantage à la dissolution, c'est d'ailleurs curieux de voir un gouvernement qui parle de dissolution, alors que c'est un droit constitutionnel...
Il est sorti de son rôle, Sébastien Lecornu, il vous a surpris.
Il n'appartient qu'au président de la République. Aujourd'hui, voilà,
Vous n'avez pas trouvé ça très malin de la part de Sébastien Lecornu de brandir la menace de la dissolution.
Ceux qui censureraient un budget, même auquel je ne suis pas favorable, ferait prendre un risque important à la France pour cette dernière année pré-présidentielle, de ne pas avoir de budget pour pouvoir faire tourner notre activité économique comme elle se doit.
Il est où Édouard Philippe ?
Édouard Philippe est tout simplement sur des positions aujourd'hui assez claires sur le fait que nous avons besoin d'un budget, que nous puissions maintenant regarder devant, faire avancer nos propositions, nos positions.
Vous aviez compris, Christian Estrosi, que cette alliance
du centre et de la droite soit une réalité.
Vous aviez compris son appel en quelque sorte à ce que Emmanuel Macron démissionne.
Nous ne sommes plus dans ce calendrier. C'est dépassé.
Le moment, ça vous a surpris ?
Non, ça ne m'a pas surpris. Ça n'était même pas quelque chose d'agressif à l'égard d'Emmanuel Macron, et ça ne touchait pas la personne d'Emmanuel Macron elle-même. Nous voyons bien qu'après cette dissolution manquée d'Emmanuel Macron, qui a commis une erreur et qui n'est pas été sans conséquence, vous en conviendrez, en 2024. Nous n'avions surtout pas besoin de cette dissolution. Elle a été totalement ratée et personne ne l'a souhaité en dehors de lui-même.
Mais là, maintenant, est-ce que l'année va vraiment être
aujourd'hui,
utile?
Aujourd'hui,
est-ce que vous diriez encore qu'il vaudrait mieux avoir des élections
plus rapides?
La situation
dans laquelle nous nous trouvons par une dissolution, c'est juste revenir à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Faire perdre du temps, dépenser de l'argent, le raisonnement d'Edouard Philippe qui était de dire, allez, on vote un budget, bon ou mauvais, mais il faut se donner les moyens de retrouver une majorité dans notre pays. On sait qu'on ne retrouvera une majorité dans notre pays qu'au terme d'une élection présidentielle qui permettra de faire enfin les réformes structurelles en matière de sécurité, en matière de transition, en matière de santé, en matière d'éducation, qui sont urgentes. Et donc, naturellement, tout ce qui peut permettre à notre démocratie de manière urgente de retrouver une majorité pour faire cette réforme, c'est le raisonnement, ça a été le raisonnement d'Edouard Philippe.
Et c'est ce qui conduisait Edouard Philippe à cette réflexion. Merci Christian Estrosi d'avoir répondu à mes questions ce matin. Vous êtes le maire de Nice, vous êtes candidat à votre propre succession et vous êtes vice-président du parti Horizon. Il est 8h47 sur RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Tous les matins, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Nicolas Canteloup, Christian Estrosi, mon invité ce matin, est resté avec nous. Le vrai rebonjour, Christian Estrosi.
Rebonjour, je suis venu à assister à ce moment-là.
Et l'un de vos amis, Éric Ciotti, voulait vous dire un mot?
Oui, écoutez, si je suis là, ce n'est pas un hasard. Hein, vous l'avez compris, vous le savez très bien avec Christian Estrosi, nous connaissons. Hein, ça fait 30 ans qu'on se connaît, 20 ans qu'on se fréquente, 10 ans qu'on se déteste, 5 ans qu'on se méprise et 2 ans qu'on ne peut plus s'encadrer. C'est vous dire si on est proche.
C'est à ce point-là.
Mais écoutez, en tout cas, moi, je me sens très proche de son fauteuil de Nice. Hein, de maire de Nice.
C'est ça.
Je l'assume, je veux prendre sa place à Nice. Peut-être ne s'est-il pas rendu compte de cet élément. Hein. En tout cas, je le lui dis droit dans les yeux, parce que moi, je suis cash, voilà, je suis comme ça. Par contre, j'espère que lui ne va pas me piquer ma place de quoi d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai comme place importante, moi? Parce qu'avant, j'étais. Mais maintenant, j'ai plus trop. Si, je suis quand même trésorier de l'amicale des amoureux du Pambagna niçois. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre comme place enviable? Ah si, à la cantine de l'Assemblée, je suis juste à côté de Marine. C'est une très bonne place, c'est très, très, très prisé comme place. C'est comme un carré VIP pour un concert de Jul.
Oui. Alors justement, vous vous présentez donc à Nice face à Christian Estrosi.
Oui, car je le dis solennellement, l'heure du choix est arrivée pour les Niçois. Est-ce qu'ils veulent continuer avec un maire de droite qui promet la répression contre le trafic de drogue, qui promet la propreté, qui promet plus de police, moins d'impôts, ou au contraire, est-ce qu'ils veulent renverser la table avec un maire de droite qui promet la répression contre le trafic de drogue, qui promet la propreté, qui promet plus de police et moins d'impôts? Oui, vous avez compris qu'avec moi, ça n'aura rien à voir.
Si vous pouvez me permettre, ça paraît un peu similaire quand même.
Mais non, ouvrez les yeux. Regardez la gestion de Christian Estrosi. Regardez ce que Nice est devenu. La population va moins bien. Elle s'appauvrit. Avant, Nice, c'était des jeunes milliardaires. Aujourd'hui, c'est plus que des vieux millionnaires. La misère s'installe, madame Malherbe. Ouvrez les yeux, des journalistes quand même.
Ça reste une population aisée quand même, monsieur Sioux.
Aisée, mais plus du tout. Il y a des Niçois qui sont en difficulté aujourd'hui financière à Nice. Certains Niçois sont aujourd'hui obligés de choisir entre se payer un deuxième yacht ou une troisième maison. Mais ils ne peuvent pas faire les deux. C'est fini pour cette époque.
Merci, monsieur Ciotti. Bon, Christian Estrosi, justement, vous vouliez réagir.
Oui, bonjour ma chère Pauline de Malherbe. En tant que maire de Nice et des Niçois, je vous l'aurais constaté puisque vous m'avez interrogé, je parle lentement. Pourquoi ? Pour éviter de dire des conneries.
Ah oui, c'est...
À la différence de monsieur Ciotti. Je le redis, je l'ai dit en début d'interview. Je partage la douleur des agriculteurs, car Nice, vous le savez, chère Apolline de Malherbe, est une grande terre agricole. Une terre d'élevage avec ses nombreux troupeaux de caniches, de Yorkshire et de bichons maltais qui sont à l'image du terroir agricole niçois.
Merci beaucoup, merci monsieur Estrosi. C'est avec tristesse que nous avons appris le décès d'une des grandes voix d'RMC, Roland Courbis, et Zinedine Zidane tenait à lui rendre un dernier hommage.
Oui, pardon, bonjour à monsieur Estrosi. Non, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que j'ai bien connu Roland. Déjà, c'était un bon joueur. C'est l'OM, Olympiakos, je m'en souviens, Monaco. C'était pas mon niveau non plus, mais c'était quand même un super joueur. Et puis, c'était surtout aussi un grand entraîneur. Bon, les Girondins, Marseille, c'était pas mon niveau non plus, mais c'était quand même un grand entraîneur. Puis surtout, c'était vraiment une grande gueule, toujours à l'aise pour parler. Et là, pour le coup, c'était vraiment pas moi non plus.
Merci, Zinedine Zidane. Laurent Blanc voulait également rendre hommage à Roland Courbis. Roland a été votre entraîneur. Hein.
Oui, effectivement. Ici, dans ce studio RMC, Radio Tu nous manques Courbis, je vais rendre hommage à Roland. Je pense parce que j'ai des lunettes. Je pense que quand on rend hommage, chaque mot compte et je mesure la responsabilité qui m'incombe. Et je pense d'ailleurs que chacun est incombé
par la disparition de cette absence qui laisse un vide tellement présent. Voilà les premiers mots qui me viennent.
Bien sûr.
Pardon, un peu dans le désordre, nonobstant l'émotion qui m'affuble et les sentiments qui m'échoient. Et cela, vous le voyez, corroboré par la tristesse qui me fustige.
Très bel hommage, merci Laurent Blanc. Aujourd'hui s'ouvre le procès en appel de Marine Le Pen dans l'affaire du détournement de fonds du Parlement européen. Marine Le Pen, vous êtes là, Madame Le Pen, bonjour.
Oui, bonjour Madame Malherbe, bonjour à Christian Estrosi. Écoutez, oui, je fais appel de ce premier jugement, pourquoi ? Et parce qu'il est indigne, Madame Malherbe. Non seulement j'ai été condamné à être inéligible, et en plus j'ai été condamné à ce que Jordan devienne lui éligible. Pardonnez-moi, mais je pensais que dans d'autres pays, la double peine n'était plus de cours.
Vous pensez que vos avocats peuvent retourner la décision des juges ?
Nous verrons bien. J'espère la justice qui fait son travail. En tout cas, j'ai changé d'avocat. Au lieu de Maître Bosselu, qui me défendait jusqu'à présent, mon conseil habituel, j'ai choisi le puissant Maître Cissé Fantadiop, grand marabout hypnotiseur au don naturel prodigieux, vous connaissez. J'ai trouvé son papier. Oui, c'est sa publicité dans ma boîte aux lettres. Je vous lis. Amour, chance, procès, je soigne ton ordinateur à distance grâce à mon don de médium extraordinaire et cosmique. Et ton amour reviendra vers toi comme un chien fidèle, voilà. De toute façon, au point où j'en suis, ça mange pas de pain. Hein. Et puis il est africain, ça montrera au juge de gauche que j'ai changé.
Ça se tente, ça se plaît. Merci Madame Le Pen. Allez, un mot de sport pour terminer avec la Coupe d'Afrique des Nations. Philippe de Villiers, vous suivez la compétition ?
Absolument, c'est très agréable de voir tous ces Africains, les Algériens, Marocains, Sénégalais, Maliens, bonjour hein, Monsieur Marchal, jouent au football. C'est tellement rare de les voir jouer chez eux. C'est d'ailleurs, Serge me disait, dommage que la France ne participe pas. Bon, en même temps, c'est vrai que c'est la Coupe Nation d'Afrique des Nations, c'est pas une nation africaine, la France. Quoique, quand on voit la composition des Bleus, ça saute pas aux yeux. Hein. Mais pardon, mais un match France-Côte d'Ivoire, c'est un peu les titulaires qui jouent contre la réserve. Avant de vous quitter, je voudrais quand même avoir une pensée pour notre Roland National, le pape des entraîneurs, et lui adresser ma plus sincère bénédiction, urbi et courbis.
Allez, Nicolas Cantelou, à demain même heure. Dans un instant, les Gigi, les Grandes Gueules avec Mourad Boudjelal, l'éditeur de bande dessinée, Yves Candebord, le cuisinier. Nous serons avec Laura Varton-Martinez, la sophrologue, et on reparlera des tracteurs qui sont entrés dans Paris. Si on veut garder la souveraineté alimentaire, qu'on nous laisse exercer notre métier, mais est-ce que c'est la manif pour rien ? Rendez-vous avec les Gigi, avec les Grandes Gueules, aujourd'hui entre 9h et midi au 32-16.